remercions pour cette journée qui débute et pour ta grâce et ta miséricorde pour nous. Merci Seigneur pour les forces que tu renouvelles. Et merci Seigneur pour ce temps que tu nous donnes, que nous qualifions parfois comme petit déjeuner spirituel. Merci Seigneur d'être notre nourriture, d'être Seigneur ce dont notre âme a besoin et d'y pourvoir au-delà même de nos pensées. Encore ce matin, Seigneur, nous voulons que tu éclaires ta parole et que tu éclaires, Seigneur, dans nos pensées, dans notre âme et dans notre esprit. Nous voulons recevoir, Seigneur, cette parole comme venant de toi, sachant qu'elle est encore efficace et tout à fait appropriée aujourd'hui. Nous te prions, Seigneur, qu'au-delà de tout ce que nous connaissons ou croyons connaître, que tu puisses trouver en nous un terrain qui est fertile, disposé à recevoir de toi, afin que lorsque ta parole y sera plantée, qu'elle y trouve, Seigneur, un sol dans lequel elle peut s'enraciner, dans lequel elle puisse germer, porter un fruit éventuellement, qui t'est pleinement et agréable et qui t'honore pleinement. Alors, Seigneur, bénis ma sœur, bénis mon frère, bénis toute personne qui se joint à nous, et toute personne qui écoutera cet enregistrement plus tard, que la même grâce et la même onction que tu déverses sur nous maintenant, qu'elle soit aussi déversée sur chacune des personnes qui écouteront ces paroles dans le futur. Donc, toute la gloire te revienne, que tout l'honneur te revienne, et que nos lèvres, Seigneur, puissent te célébrer aujourd'hui. Nous t'avons prié en ton nom, Jésus. Amen. Alors, je relis pour vous le verset. Peut-être que même vous pouvez le réciter à haute voix à la maison. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, on continue ce matin vraiment l'étude de ce passage très, 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 très connu, un classique dans le monde des églises, dans le monde chrétien, probablement le verset que tous apprennent dans leur premier pas de foi, ce fameux verset tiré d'une conversation que Jésus va avoir avec Nicodème, et ça, souvent, on l'oublie, on se rappelle de ce verset, mais on oublie le contexte dans lequel ces paroles ont été prononcées et c'était une conversation avec Nicodème et où il va dire à Nicodème que tout homme qui ne naît pas de nouveau, qui ne naît pas d'eau et d'esprit, ne peut pas être sauvé. Et Nicodème va lui demander, mais comment un homme qui est déjà âgé, est-ce qu'il peut revenir dans le sein de sa mère et naître de nouveau? Alors c'est tout le principe du salut, de la conversion, de la nouvelle naissance qui est abordé dans ce passage et notamment dans ce verset. On a eu l'occasion de parler lundi comme quoi Dieu nous aime profondément en dépit de nos failles, en dépit de nos manquements, de nos mauvais traits aussi. Mardi, on a vu qu'il a donné son Fils unique et Fils unique dans le sens de le seul et l'unique qui était capable de remplir la tâche d'être sauveur et source de salut pour nous, qu'il a donné son Fils sciemment, délibérément, qu'il a donné son Fils pour notre bien, donc avec l'altruisme au plus haut point, et que Christ s'est donné aussi pour le paiement qui était dû en faveur de notre grâce. Et très souvent, on dit effectivement que le salut est gratuit, la réception du salut est gratuite, le fait qu'on nous donne le salut soit gratuit, mais le salut a coûté quelque chose. En soi, le salut n'était pas gratuit parce qu'il a été payé par la mort et par le sang et par le corps brisé de notre Sauveur. Et important de se rappeler, alors qu'on chemine avec Dieu, d'où il nous a tirés et comment on est devenu ou comment on est parvenu à être enfant de Dieu à travers ce paiement de notre grâce. Hier, on a vu quiconque croit en lui, on a eu l'occasion de rebrasser un peu la marmite pour expliquer ce que veut dire croire. un terme qui peut être galvaudé, un terme qui peut être tellement usuel dans notre vocabulaire qu'on en perd le sens profond. Et on a vu que croire, c'était croire que c'est une vérité absolue, qu'il n'y a pas de faille, qu'il n'y a pas d'erreur, que cette vérité est parfaite. Croire, c'est être persuadé sans la moindre hésitation et le moindre doute. C'est pas je crois mais ou je crois mais je ne sais pas si. Non, c'est je crois totalement ce qui est écrit dans la parole de Dieu et ce qui m'est annoncé au sujet de Jésus qui est source de salut. Croire, c'est aussi adopter une vie qui est en accord avec cette vérité à laquelle nous avons cru. On ne peut pas croire et ne pas être pratiquant. Si j'ai cru que la parole de Dieu est vraie, alors je me dois de vivre en accord avec les vérités qu'elle contient. Croire, enfin, on a vu hier que c'était mettre sa totale confiance dans notre Sauveur, que ce n'est pas un essai, ce n'est pas une tentative que nous faisons, mais que c'est un choix définitif, délibéré et conscient que nous faisons. Et aujourd'hui, donc, on croit afin de ne pas périr. Et le terme périr, c'est le terme apolimi, A-P-O-L-L-Y-M-I. Je répète, A-P-O-L-L-Y-M-I, qui veut dire détruire, qui veut dire retirer complètement, donc extraire une chose définitivement, abolir, perdre une chose, ou vouer une chose à la ruine, ou mettre fin, mettre un terme à une chose. Alors ici, on met bien sûr le négatif, on met le suffixe et préfixe négatif pour nous dire que Dieu ne veut pas que nous périssions. Il n'est pas dans le plan de Dieu que nous périssions. Hier, on a vu que ce Jésus avait été offert de toute éternité, avait été mandaté de toute éternité pour être le sacrifice ultime pour le salut de l'humanité, avant même que le premier péché n'ait été commis, avant même que toi et moi ne soyons sur cette terre de toute éternité. Dieu pensait à notre vie, Dieu pensait à notre existence et Dieu pensait encore plus aux moyens de salut qu'il pourrait pourvoir pour nous. Et ce moyen de salut était Jésus. Donc l'objectif de Dieu depuis le départ était de nous éviter de périr. Ça, c'est le premier point. Nous éviter de périr était l'objectif numéro un de Dieu. La condamnation en soi est déjà proclamée. Ce n'est pas que tu attends un jugement. En fait, tu vis actuellement, si tu n'as pas reçu Jésus comme sauveur, si tu n'as pas fait de Jésus ton sauveur et si tu ne lui as pas remise ta vie, tu vis en tant que condamné. Tu es déjà jugé. La condamnation est déjà proclamée. La condamnation est proclamée depuis l'instant où Adam et Ève ont croqué dans le fruit. Il leur avait été dit, si vous croquez dans le fruit, alors voici ce qui va se passer. Et dans voici ce qui va se passer, c'est vous perdez la vie, vous connaîtrez la mort. Donc la condamnation est déjà proclamée. Je suis déjà mortel, je suis déjà voué à l'enfer de par ma nature pécheresse. Alors lorsque Jésus vient, voilà pourquoi dans les versets qui suivent, on dit Jésus n'est pas venu pour juger, mais il est venu pour sauver. Si vous regardez le verset 17 et le verset 18, toujours dans Jean 3, 16, dans Jean au chapitre 3, on nous dit dans les versets qui suivent, verset 17, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Donc on nous dit, celui qui ne croit pas est déjà jugé. Donc toute ma vie que j'ai menée jusqu'à ce que je rencontre Dieu, je vivais déjà sous la condamnation. Par la grâce de Dieu, un jour on me présente l'Évangile, un jour j'entends parler du message de l'Évangile et du message de Jésus, je me convertis. Il devient mon Seigneur, il devient mon Sauveur, je lui donne et je lui confie ma vie, et à partir de ce moment-là, il me soustrait à la condamnation. C'est vraiment la notion de grâce. Vous savez, lorsque quelqu'un est gracié, mais pour être gracié, il faut préalablement avoir été condamné. On ne gracie pas quelqu'un qui n'a pas été jugé. On gracie quelqu'un qui a déjà été jugé, dont le jugement a déjà été proclamé. Le jugement peut ne pas avoir été exécuté, mais le jugement a déjà été proclamé. Donc d'ici le temps qu'il s'exécute, je suis quand même reconnu officiellement coupable. Et avant que le jugement ne soit entériné ou que le jugement s'accomplisse, quelqu'un, un roi, un premier ministre, un président, quelqu'un qui est en autorité, décide, parce qu'il en a le droit, de m'accorder une grâce. Et ici, Jésus accorde sa grâce, Dieu accorde sa grâce à travers la mort de Jésus à tous ceux et à toutes celles qui croiront en lui, selon la définition, bien sûr, qu'on en a établie hier. Donc la grâce de Dieu, c'est ce que Jésus est venu apporter. La grâce de Dieu, c'est ce que j'ai besoin. C'est pas juste lorsque je vais arriver dans l'éternité que la condamnation est sur moi. La condamnation est déjà effective sur moi maintenant. Et le sang de Jésus, la mort de Jésus à la croix, vient me sauver, donc vient m'accorder une grâce. Deuxième point qui va en parallèle ici. L'objectif de Dieu, si c'était de nous éviter de périr, l'objectif de Dieu, bien sûr, est de nous soustraire aussi à la condamnation. Et là, je parle de la condamnation, le poids de la condamnation qui repose sur nous. Je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans Romains au chapitre 8. Le verset 1, qui est bien connu aussi, nous dit, Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Je répète, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Un peu le principe d'hier, ceux qui sont en Jésus-Christ, ceux qui ont reconnu Jésus comme leur Seigneur, qui marchent donc en accord non plus avec la chair, avec les passions de ce monde, avec la tendance pécheresse, la nature pécheresse qui est la nôtre, mais qui marche en accord avec l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Il n'y a plus de condamnation. Ici, on parle du poids de la condamnation. Je peux me rappeler d'où Christ est venu me chercher et je devrais constamment m'en rappeler pour éviter de prendre ce salut et prendre cette grâce pour acquise. Très souvent, on est tellement habitué à notre langage de chrétien, on est tellement habitué aux histoires de la Bible qu'à un moment donné, on dirait que on devient insensible ou on devient amorphe, apathique par rapport à la grâce qui nous a été faite. Donc, c'est pas une idée d'oublier la condamnation en tant que telle, mais de ne plus sentir le poids de cette condamnation sur nos épaules, de pouvoir être capable de vivre effectivement avec joie, avec paix, avec félicité, tout simplement en se rappelant d'où il est venu nous chercher et en se rappelant quelle est notre destinée éternelle. Donc tu n'as plus à vivre avec la condamnation des choses que tu as faites avant de rencontrer Dieu. Tu n'as plus à vivre avec la condamnation des actes que tu aurais pu perpétrer. Bien sûr, il faut que justice et la justice des hommes s'accomplissent et il faut que nous puissions passer par le processus de repentance, de restauration, de nouvelle naissance. Mais une fois que je suis passé par cela, il y a des personnes parfois qui gardent les vestiges de leur condamnation et ils remettent un peu en question. Si Dieu était capable effectivement de les pardonner, tellement les actes qu'ils ont commis à leurs yeux sont lourds de conséquences. Mais ce faisant, ce qu'on fait ou ce qu'on provoque, c'est d'amoindrir, d'amenuiser le travail que Christ a accompli sur la croix. Ce qu'il a accompli, il va le dire lui-même, tout est accompli. Il n'y avait rien de plus qui pouvait être fait. Le parfait sacrifice était accompli. La vie parfaite qui était donnée pour ton salut et mon salut était parfaitement et totalement et adéquatement donnée. Donc, il n'y a rien qui devait être fait. Il n'y a pas une situation, il n'y a pas un péché que tu pourrais avoir commis que Dieu ne peut pas pardonner. Il n'y a pas un mode de vie que tu aurais pu pratiquer que Dieu ne peut pas pardonner. Donc, lorsqu'on vient à Christ, voilà pourquoi nous devenons une nouvelle créature. Et cette nouvelle créature n'a plus le poids de ses anciens péchés parce que la Bible nous dit qu'il prend nos péchés et qu'il les jette dans la mer de l'oubli. Il les jette dans la mer de l'oubli. Alors lorsque le diable, certains vont te dire, lorsque le diable te ramène tes histoires passées, lorsque le diable ramène à ta pensée les choses que tu as faites par le passé, rappelle-lui plutôt à lui sa destinée. La tienne, elle est avec Dieu pour le restant de l'éternité, dans sa présence, dans sa gloire, dans sa paix et sous sa bénédiction, alors que lui va vivre pour l'éternité, va exister pour l'éternité, dans l'enfer et dans la condamnation de Dieu. Donc l'objectif de Dieu était de nous éviter de périr, mais de surcroît à cela, de nous soustraire au poids de la condamnation. J'aimerais qu'on s'arrête un ou deux instants sur le terme périr. Qu'est-ce que ça veut dire périr? Quelle était la pensée de Dieu dans l'utilisation de ce terme périr? Quel est le drame du terme périr? Et je vais vous inviter à ouvrir dans l'Ancien Testament et par la suite on va voir le même passage mais dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, dans Lévitique au chapitre 20, c'est ce que Dieu va dire à propos de son peuple, à propos du peuple d'Israël qu'il va rassembler autour de lui. Lévitique 20, le verset 26, nous dit: Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. Je répète, vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. Dans 1er Pierre, au chapitre 1, vers la toute fin du Nouveau Testament, 1er Pierre, chapitre 1, le verset 15 et 16, Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, Vous serez saints, car je suis saint. Alors, ce que je veux vous dire ici, c'est que le principe que je m'apprête à vous expliquer s'applique tant dans l'Ancien Testament par rapport au peuple d'Israël que dans le Nouveau Testament par rapport à l'Israël spirituel, à la maison de Dieu spirituel, au peuple de Dieu que toi et moi, que nous en tant que croyants, nous constituons. Sur cette terre, il est possible de vivre sans l'approbation de Dieu, mais avec sa présence qui est toujours accessible et qui peut toujours être expérimentée. Que l'on soit chrétien ou non, il est possible de vivre sans l'approbation de Dieu. Alors Dieu maudit ce que je fais, Dieu condamne plutôt ce que je fais, mais malgré tout, parce que je suis un être vivant, sa présence m'est toujours accessible. J'ai toujours le droit de prétendre à sa présence. Et la Bible nous dit que lui fait pleuvoir sur le bon et sur le méchant. Alors actuellement, parce qu'il est Dieu et qu'il est partout et qu'il se laisse trouver par qui le cherche, donc sa présence, pour toi, pour moi, pour le croyant comme pour le non-croyant, pour le converti comme l'inconverti, sa présence reste accessible. Mais à un moment donné, ce qui se passe, et il va le dire par rapport au peuple d'Israël, mais on fait le même parallèle pour le peuple de Dieu du Nouveau Testament, il dit il sépare le peuple d'Israël des autres peuples pour qu'il soit son peuple. De même, il nous sépare à nous en tant que corps de Christ, en tant qu'Église, pour être son peuple. Mais ici, la notion de son peuple, c'est la notion de proximité avec Dieu. Voyez-vous, la chose la plus triste qui s'est passée lorsqu'Adam et Ève ont péché, c'est que du jour au lendemain, ils ont été chassés du jardin, du jardin d'Éden, je m'excuse, et privés de l'expérimentation quotidienne et normale de la présence de Dieu. Rappelons-nous, Dieu, le soir venu, se présentait dans le jardin et prenait des marches avec Adam et Ève. Il avait des conversations à bâtons rompus avec Adam et Ève. Mais lorsque ils ont été chassés du jardin d'Éden après le péché, cette présence de Dieu, voilà la plus grande perte et le plus grand drame qui soit survenu dans l'histoire de l'humanité. Et ce qui va se passer lorsque l'enfer va être ouvert et lorsqu'effectivement une partie de la population va aller vers l'enfer et l'autre partie qui aura été rachetée, qui aura été sauvée, va vers le paradis. La chose qui se passe, le terme périr ici, c'est que pour le restant de l'éternité, donc pour toujours, ceux qui seront au paradis vont vivre dans la présence accessible, infaillible, merveilleuse de Dieu, mais les autres qui sont en enfer vont vivre exclus de la présence de Dieu. Et c'est ce principe de sanctification. Le terme être saint veut dire mis à part. Donc, à un moment donné, Dieu va mettre à part son peuple, le peuple de racheté, le peuple des sauvés, qui vont vivre exclus de la masse pécheresse qui a été condamnée et qui ne s'est pas tournée vers Christ. Alors le drame de périr ici, c'est pas comme si tu arrivais face à une mort et que cette mort-là, une fois que c'est arrivé, paf, c'est fini et il n'y a plus rien. Le drame de l'enfer, c'est que pour le restant de l'éternité, tu vis sans la présence de Dieu et vivre sans avoir cette perception de la présence de Dieu, l'Écriture nous le décrit comme étant une agonie, comme étant une mort permanente, mais une mort que tu es en train de subir. C'est pas que tu es mort, mais c'est que tu es en train de mourir pour le restant de l'éternité. La meilleure façon que j'ai à vous le décrire, c'est que vous agonisez pour le restant de l'éternité parce que vous n'avez plus accès à la présence de Dieu. Et c'est ça le drame qui attend l'ensemble de ceux qui seront condamnés au jour du jugement. Et voilà ce que la grâce de Dieu nous évite. La grâce de Dieu nous permet d'être séparés du monde pécheur, du monde condamné, afin de vivre pour le restant de l'éternité dans la présence même de Dieu. Et finalement, le dernier point, c'est que nous devons croire effectivement que si Dieu ne veut pas nous faire périr, c'est que Dieu a pourvu une voie de salut. Marc 16, le verset 16 nous dit, Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Ici, c'est très clair. Celui qui croira, bien sûr, comme on a dit hier, croire, croire que c'est une vérité absolue, être persuadé sans la moindre hésitation, sans le moindre doute. Adopter aussi une vie qui est en accord avec cette vérité à laquelle on a cru et mettre sa totale confiance dans notre Sauveur. Et là, on est en train de nous dire, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Ici, on est en train de dire que croire ne suffit pas. Il y a croire et il y a l'identification que nous prenons avec ce en quoi nous avons cru. Qu'on soit très clair. Le baptême en soi ne sauve pas. Ce qui sauve, c'est de croire effectivement que je suis pécheur et que Christ, est le Sauveur et de lui confier ma vie et qu'il soit le Maître, le Seigneur et le Sauveur sur ma vie. Voilà ce qui sauve. Toutefois, il y a des conséquences à ce salut. Et une des conséquences et que je m'inscrive publiquement comme membre du corps de Christ. Et cela se fait à travers le baptême. C'est à travers le baptême que je m'identifie publiquement devant les hommes, devant les autorités spirituelles, quelles qu'elles soient, du royaume de Dieu comme du royaume de ténèbres. Mais c'est à travers ce moment de repentance et ce moment de baptême que je m'identifie avec la mort de Christ, que je m'identifie avec mon Sauveur et que je m'identifie avec le peuple de Dieu. Si vous vous rappelez, il y a quelques semaines, on a parlé de Gilgal, ce premier endroit où le peuple d'Israël arrive dans le pays de Canaan. Et la première chose qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont pratiquer la circoncision. La circoncision en soi n'a pas une portée spirituelle, n'a pas une portée métaphysique. La circoncision en soi n'était qu'un signe physique, qu'un signe public de cette appartenance au peuple de Dieu. Donc tous les garçons juifs se faisaient circoncire pour qu'il y ait cette marque sur eux, comme quoi ils sont membres du peuple de Dieu. Et nous, la Bible nous dit que notre circoncision en tant qu'enfant de Dieu et en tant qu'église néo-testamentaire, donc du Nouveau Testament, cette circoncision se passe à travers le baptême d'eau. Et voilà pourquoi il est important de comprendre que ce baptême ne se fait pas avec un papa qui le décide pour un bébé. Mais ce baptême est une décision qui doit être prise par quelqu'un qui comprend son état de pécheur, par quelqu'un qui décide effectivement de croire en Christ et qui décide de vivre selon les principes bibliques, selon les préceptes de Jésus et qui décide d'avoir Jésus comme maître absolu de son existence. Donc croire est la seule voie de salut, mais ce croire qui nous évite de périr va aussi entraîner des choses dans ma vie, des choses dans ma conduite, des métamorphoses dans mes pratiques, des métamorphoses dans mon mode de vie, mais de surcroît à ça aussi une étape importante qui est le baptême, qui est l'identification avec la mort de Jésus, l'identification avec mon Sauveur et l'identification avec l'ensemble des membres du corps de Christ, donc du peuple de Dieu. Alors j'espère que ces quelques notions qu'on a vues aujourd'hui, peut-être un peu plus techniques ou un peu plus théoriques, vous auront nourri adéquatement pour aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a vu? L'objectif de Dieu était de nous éviter de périr, donc de nous accorder une grâce face à la condamnation que nous avons déjà sur nous. L'objectif de Dieu est de nous soustraire au poids même de la condamnation, que nous ne vivions plus avec ce poids d'un condamné, d'un jugé, mais que nous vivions avec la grâce, l'exaltation, avec la joie, la félicité de quelqu'un qui a été gracié par son Seigneur et par son Sauveur. On a vu que le drame de périr spirituellement, c'est l'exclusion qui nous guette de la présence de Dieu, l'exclusion totale, permanente et éternelle qui serait nôtre si nous allions effectivement en enfer. Et enfin, on a vu que croire est la seule voie de salut, croire qu'il est le seul sauveur, croire que c'est la vérité absolue, croire qui nous amène à changer nos modes de vie qui étaient pécheurs pour adopter un mode de vie en accord avec la parole de Dieu. Croire que ce Sauveur a fait tout ce qui était nécessaire et tout ce qui était adéquat et justifié pour nous sauver. Et croire qu'il nous amène aussi à nous identifier avec Jésus publiquement par les eaux du baptême et s'identifier avec l'ensemble du peuple de Dieu. Alors voilà ce que nous avions pour ce matin. Demain, on va voir, mais qu'il est la vie éternelle, qu'il ne périsse point, mais qu'il est la vie éternelle. Alors, on va prier simplement pour terminer, après qu'on saluera les personnes qui se sont jointes à nous à travers les dernières minutes. Seigneur, merci pour ce temps où tu nous rappelles ta grâce et tu nous rappelles, Seigneur, en tant qu'enfant de Dieu, ce à quoi, Seigneur, tu nous as soustrait. Merci, Seigneur, pour cette condamnation que tu as effacée. cette condamnation que tu as prise sur toi en mourant sur la croix, et cette condamnation, Seigneur, à être exclu de ta présence pour l'éternité, que tu as enlevé de nous. Merci, Seigneur, parce qu'effectivement, tu as ouvert une voie à travers le voile qui a été déchiré dans le temple, afin que nous tous, nous ayons accès à la toute-puissance de Dieu et à la toute-présence de Dieu. Merci pour ce privilège que tu nous accordes d'être ton peuple, d'être membre de ta famille, en dépit, Seigneur, de tout ce que nous avons commis par le passé, en dépit de ce qu'était notre vie dans le passé. Tu fais ces changements, cette transformation en nous, et tu nous appelles ton fils et ta fille. Quel privilège, Seigneur. Permets-nous, Seigneur, de ne jamais oublier d'où tu es venu nous chercher et la grâce de laquelle, Seigneur, nous avons bénéficié. Nous ne voulons pas, Seigneur, que cette grâce devienne une banalité dans nos pensées, une chose normale. Cette grâce est exceptionnelle. Cette grâce est majestueuse. Et cette grâce, Seigneur, aucun d'entre nous ne la méritait. Alors merci, Seigneur, pour ton amour, pour ta fille, pour ton fils, pour mon frère, pour ma sœur. Merci pour ta grâce et ton amour envers moi-même. Que je sois, Seigneur, un digne représentant de ton royaume en cette journée. Que ces paroles que nous avons entendues ce matin puissent m'amener à vivre une vie encore plus en accord avec ta parole. Tu vois ceux qui sont dans cette période de découverte de qui tu es et dans cette période d'engagement par rapport à toi. Je prie, Seigneur, que leur cœur, leur foi soit solidifiée, qu'ils soient nourris, Seigneur, par ces différentes occasions que nous avons de partager, et que tu leur permettes, Seigneur, lorsque le confinement sera levé, que tu nous permettes, Seigneur, de célébrer aussi ces baptêmes qui viennent concrétiser, qui viennent sceller des décisions, Seigneur, de se tourner vers toi, de t'appartenir et d'être membre de ton peuple. Donc, merci, Seigneur, pour ma sœur, merci pour mon frère, bénis-les aujourd'hui et garde-nous, Seigneur, durant cette journée. Nous t'avons prié en ton nom, Jésus. Amen. Alors, regardons un peu qui s'est joint. Donc, ce côté-ci, je ne peux pas voir. Voir si je suis capable de repérer ici. Peut-être pas non plus, mais on va essayer. Donc, je crois qu'il y a Rosie d'Alsace, Jimmy. Ce côté-ci, j'ai vu, je crois, ma belle-sœur, donc ma belle-mère. On a Diane aussi. Et je pense que c'est à peu près tout. Andrés, Natacha. Donc, je crois que c'est tout. Chanel, oui, effectivement. Donc, si j'en ai oublié, par mégarde, excusez-moi. Votre présence à tous et chacun m'est très précieuse. Je suis honoré de passer ces quelques instants avec vous et je suis honoré de l'attention que vous m'accordez lorsque je partage ces exhortations avec vous. C'est un privilège. C'est une grande tristesse aussi qu'on soit obligé de le faire, parce que je préférerais vous avoir près de moi physiquement lors de nos assemblées. Mais dans le contexte actuel, croyez-moi, je reçois comme un grand honneur que vous soyez présent matin après matin et lors de toutes nos assemblées. Merci de continuer à prier pour nous à la direction de l'Église, que le Seigneur nous instruise comment faire les choses. Pour nous, c'est aussi un apprentissage. Cette nouvelle période, on apprend à faire l'Église différemment. Merci d'être patient. Les ajustements ne sont pas nécessairement évidents. Merci de vos prières, de nous soutenir, de nous appuyer. Et merci pour tous les petits mots que vous envoyez si régulièrement pour nous saluer et puis pour nous faire un peu de bien. Donc, sur ce, j'espère que vous avez été bénis ce matin. Je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve demain matin pour notre dernière bénédiction matinale de la semaine. Et puis, on a aussi rendez-vous, rappelez-vous, demain soir pour notre temps de prière et d'intercession. Donc, demain matin, 8h30, demain soir, 19h. Donc, sur ce, passez une très belle journée dans la présence de Dieu. Profitez pour remarquer la présence de Dieu. Profitez pour le remercier d'être à vos côtés. Même quand on ne le sent pas, il est quand même là. Et réalisez combien votre vie serait effroyable si cette grâce de sa présence nous était retirée. Donc, profitez de la présence de Dieu, honorez-le par vos paroles, passez du temps à lui parler, à le laisser vous parler aussi dans votre cœur. Et qu'en toute chose, vous soyez de bons et fidèles serviteurs pour le Seigneur. Alors, bonne journée, on se retrouve demain. Bye bye tout le monde.